Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes. Qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain. Je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. La hache. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire. J'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui ai laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute les Villeneuve. La hache. Bah, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix à tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maribin. Je dis blousé, c'est mon voisin. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage.
La rage. Chers auditeurs de La Rage Dedans, aujourd'hui j'ai le grand honneur de recevoir un des meilleurs documentaristes de France, Yannick Argoat, bonjour.
Bonjour.
Alors Yannick, tu es le spécialiste de l'humour à froid depuis Les Nouveaux Chiens de Garde et on te reçoit aujourd'hui parce que hier sort le DVD de ton dernier film fait et avec Mediapart, Personne n'y comprend rien.
Oui, en effet, alors le DVD et aussi la VOD. Le fichier VOD, puisque à partir d'hier, donc le film est disponible sur un certain nombre de plateformes qui permettent de le louer ou de l'acheter à distance et de pouvoir, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le voir en salle, de pouvoir le voir de cette façon-là.
Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière.
On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table.
Mais d'où venait cet argent ?
Aujourd'hui encore, la justice s'interroge.
Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie.
Qui peut croire à une fable pareille?
Alors, il est toujours distribué en salle. Peu de séances, mais il vaut quand même mieux le voir en salle, quitte à le louer et l'acheter ensuite en VOD.
Oui, alors maintenant, c'est vrai que ça devient quand même un peu difficile de voir en salle. Il y a encore quelques séances ici et là. Je crois qu'il y a une salle à Paris et puis après, en province, je pense que c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc ça, bon, voilà, c'est quand même un moyen pour tous ceux qui souhaiteraient le voir et qui n'avaient pas eu l'occasion d'avoir une salle de cinéma qui le projette pas trop loin de chez eux.
Comme la ville de Lille.
De pouvoir le voir. Comme la ville de Lille, ou aucun cinéma.
Aucun cinéma l'a projeté à Lille. On s'est demandé longtemps pourquoi.
Bah pour une raison très simple, c'est que il y a que des grands réseaux maintenant aujourd'hui à Lille qui projettent des films. Il y a plus de salles indépendantes. Il y en avait une, mais elle a été rachetée donc par un grand réseau et que ce genre de film est peu exploité dans les grands réseaux, hormis Pathé qui nous a ouvert des salles à Paris et en province. UGC, Gaumont, CGR et même MK2 n'ont pas souhaité diffuser le film.
Il y a eu une censure.
Oui, moi je pense que il y a une censure qui est d'abord économique, on peut le dire, et qui concerne le documentaire en salle en général. Mais je pense que on peut dire du point de vue de MK2 à Paris, oui, la censure elle est beaucoup plus politique à mon sens.
D'accord. Alors, avant d'en arriver à Personne n'y comprend rien, et tu vas expliquer pourquoi tu as choisi le titre de ce film, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours, Yannick, et qu'on commence par Les Nouveaux Chiens de Garde.
Quand on a commencé, il y avait 2 chaînes. Oui. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait 3 radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé.
Assez !
Pour les journalistes, il y a 2 manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier, tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce.
C'est pas trop douloureux, docteur.
Non, ça va.
C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. C'est un seul et même monde. C'est un monde unique.
Ça me paraît antique. Antique ou soviétique.
La crise financière est a priori passée.
Et l'économie mondiale est plutôt bien gérée.
Il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence.
Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital.
Il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers liés à de très gros intérêts médiatiques sont en liaison intime avec l'État.
Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens parfaitement visibles de l'ordre social existant.
Le système jette, rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Vous ne restez jamais à l'antenne impunément.
Notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias.
Donc, en 2012, je suis allée le voir. C'était le bouche à oreille qui fonctionnait. Donc, Les Nouveaux Chiens de Garde est sorti le 11 janvier 2012.
Voilà.
C'est la libre adaptation au cinéma de l'essai de Serge Halimi, de 97, réédité en 2005, toujours chez le même éditeur. Et c'est extraordinaire de voir en première image Pierre Descropes parler de Paul Nizan. Comment t'es venue cette...
Alors, il faut peut-être juste raconter un peu l'histoire de ce film et moi, comment je suis venu à collaborer à cette réalisation qui est surtout un travail collectif, hein, parce qu'on était 2 co-réalisateurs en titre, donc avec Gilles Balbastre et plusieurs co-auteurs, dont évidemment Serge Halimi lui-même, là, qui à l'époque déjà, je crois, dirigeait le Monde diplomatique, Pierre Rimbert et Renaud Lambert. Ont été les co-auteurs de ces films. Donc c'est un film qui a été produit par Jacques Kirchner et qui s'est fait à son initiative, donc à l'initiative de Jacques, qui a contacté notamment Pierre Rimbert au départ, qui était l'auteur d'un autre livre de critique des médias qui s'appelait « Libération » de Sartre à Rothschild. Donc voilà, qui refaisait un peu l'historique de ce qu'avait été l'histoire de ce journal et de ce qu'il était devenu déjà à l'époque, notamment sous la direction de Laurent Geoffrin. Et voilà, et progressivement, donc il y a une réflexion qui s'est établie sur l'idée de faire un film en salle de critique des médias, une critique qu'on peut toujours aujourd'hui qualifier de radical, hein, qui va à la racine, hein, au sens marxiste du terme, qui va à la racine des choses. Et ce film s'est fait dans une, on va dire, à la fois avec un projet assez défini et en même temps avec une histoire un peu chaotique, comme peut l'être ce genre de projet qui se fabrique un petit peu comme ça. Au cours des mois de travail.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur la personnalité de Jacques Kirchner. En 2011, il a produit Carmen Castillo, qui produisait un film pour France 5, sur Victor Serge. Mmh. Et surtout, pour nous, qui sommes au groupe Louise Michel, il a été le producteur d'une réalisatrice décédée, Solveig Anspa, qui a fait le fameux Louise Michel, dont le titre exact, c'est Louise Michel la Rebelle. Elle l'a tourné en juillet 2008 en Nouvelle-Calédonie. Il a été diffusé le 6 mars 2010 sur France 3. Et le 7 avril 2010, il était en salle, avec Sylvie Testu dans le rôle titre. Et c'est sur les années de bagne, de déportation, les 7 années de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. C'est 7 années de déportation. Et Jacques Kirchner, c'est quelqu'un que je respecte énormément.
Alors malheureusement, j'ai appris il y a quelques jours à peine que J'aime Production, qui était sa société de production, qui avait survécu à plusieurs, on va dire, semi-faillites ou quasi-faillites au cours des années, etc., vient définitivement, effectivement, de fermer. Ouais, je crois qu'il a eu des grosses difficultés financières liées à des problèmes de financement sur un film. Il a envoyé un mail collectif à tous ses auteurs et réalisateurs, réalisatrices avec lesquels il avait travaillé pour annoncer cette triste nouvelle que J'aime Production vient de fermer et ferme définitivement ses portes. Et c'est très triste, évidemment, puisque Jacques était un producteur très, très singulier, très particulier. Mmh. Il avait eu une carrière politique avant de faire l'audiovisuel. Il a été mahomiste. C'était quelqu'un de très engagé. Très forte personnalité. Mmh. Vraiment, c'était quelqu'un de très entier, très intègre, très loyal. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui.
Il avait pris Michel Ragon pour faire le scénario de Louise Michel.
Il était lui-même aussi scénariste, il faut le dire. Il écrivait beaucoup, très tôt le matin. Il arrivait très tôt au bureau le matin pour travailler. Il en partait assez tôt aussi. C'était véritablement une personnalité. C'est toujours, hein, puisque évidemment, il n'est pas décédé. Et je pense qu'il va continuer... ses travaux d'écriture, en tout cas, c'est ce qu'il affirmait dans son mail. Il va se consacrer à l'écriture aujourd'hui.
Alors, travailler beaucoup, c'est ce que tu as fait, notamment sur ton deuxième film que tu as fait avec Denis Robert, La Très Grande Évasion, sorti le 7 décembre 2022, et pédagogique, ironique, décapant, pour montrer ce que c'est que La Très Grande Évasion fiscale, qui est un sport réservé aux très très riches, qui prive les collectivités locales d'une redistribution efficace des richesses produites. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 7 milliards dissimulés d'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, tu le démontres bien dans ce film, ce n'est pas un défaut, c'est un rouage du système.
Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse.
Il n'y a pas d'argent magique.
Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictifs.
Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne.
I think that actually more money is sitting offshore than ever before.
Les masses en jeu sont énormes.
That is total political crap.
Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore.
Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours.
Nous payons tous nos impôts exigés par la loi.
We pay the tax that we owe.
We do pay taxes.
Quand tu payes beaucoup, ils payent 2 ou 3%.
You become a Grenada citizen, you can change your name.
Do you offer 600. Complex structures for the purpose of minimizing tax?
It will be one of the things that's taken into account.
Thank you. On se retrouve face à un système de tricherie.
Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal?
Je n'ai jamais dû. De comptes à l'étranger
ont 600 milliards d'euros.
So I want to grab all that money.
Les Panama Papers.
Tax evasion is a sport that only the very rich can play.
C'est une machine à gagner du temps qui rogne même du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Et ça marche.
Et il est en DVD et en VOD aussi, sur ouais, la plateforme des mutins de Pangée.
Effectivement, ce n'est pas 7 milliards, puisque bon, l'évasion fiscale a été...
7 000 milliards, pardon.
C'est 100 milliards d'euros chaque année qui,
oui, c'est 7 000 milliards.
Qui échappent aux, voilà,
autant pour moi,
aux recettes de l'État, et donc à tout le monde, à la collectivité, aux services publics, etc., etc. Donc c'est une somme considérable. Hein. On regarde notamment, par exemple, des efforts budgétaires que demande l'actuel gouvernement Bayrou, qui parle d'économies de 50 milliards d'euros. Mmh. Là, on parle du double, hein, qui disparaît chaque année des caisses de l'État. En tout cas, qui ne rentre pas chaque année dans les caisses de l'État. Donc, ça nous a semblé être effectivement un problème très important et sur lequel il fallait faire un peu de pédagogie, comme tu le dis, ouais, au sens, pour moi, noble du terme, c'est-à-dire user des moyens du cinéma et de l'audiovisuel pour essayer de comprendre quels étaient les mécanismes et les acteurs de cette évasion fiscale. Donc ça a été un travail assez important, effectivement, c'est presque 3 ans de travail, qui commence par une enquête, comprendre, lire,
recueillir
des informations, lire beaucoup, rencontrer des gens qui sont les spécialistes de ces questions-là, etc.
Et ensuite, le film a été la rencontre avec un personnage majeur qui est Alain Deneux.
Voilà, entre autres, philosophe
de l'économie.
Canadien, québécois, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, hein, et qui avait effectivement beaucoup réfléchi, beaucoup de choses à dire sur les questions d'évasion fiscale, et notamment au regard de tout son travail sur ce qui se passe au Canada, hein, qui est un pays de l'évasion fiscale, en tout cas pour les industries extractivistes. Donc voilà, et ça a été un travail assez long, de quasiment 3 ans, hein, voilà, entre les premiers moments de l'enquête et puis la fabrication du film. Voilà, essayer de rendre ça accessible, intéressant, compréhensible pour un film en salle, c'est-à-dire un film qui potentiellement s'adresse à tout le monde, sans prérequis particuliers, sans connaissances élaborées, on va dire, de ces phénomènes ou de l'économie, enfin voilà, de connaissances en économie et en théorie économique. Il fallait essayer de rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc voilà, donc ce qui demande souvent, de pas mal travailler son écriture, ses explications, la synthèse de l'ensemble de ces dimensions et rendre ça vivant et intéressant au cinéma. Voilà.
Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que tu as toujours cumulé des prix. Tu as eu le César en 2013 du meilleur documentaire pour Les Nouveaux Chiens de Garde.
Non, on n'a pas eu le César pour le film, on a été nominé, effectivement. Et là, je me permets de dire toujours que les prix ne m'intéressent vraiment pas.
Mais bon, pour La Très Grande Évasion, tu as eu un prix à Toronto.
Les films ont été sélectionnés par moments, effectivement, dans des festivals, ce qui est tout à fait normal, enfin, ce qui est la vie souvent du documentaire. Parce qu'en salle, c'est relativement difficile de réunir beaucoup de gens. En revanche, il y a beaucoup de festivals qui existent dans le monde, effectivement. Mmh. Et quand on a des sujets comme ça qui touchent un peu au-delà, on va dire, du périmètre national français, on arrive effectivement à être sélectionné dans des festivals internationaux. Mais je dois dire que moi, j'ai toujours eu une grande réserve vis-à-vis des prix, parce que je considère que, d'une manière générale, les films ne sont pas faits pour rentrer en compétition les uns avec les autres. Donc, c'est relativement absurde. Et évidemment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir aux distributeurs, à l'équipe, etc., etc. Mais bien entendu, c'est certainement pas une motivation pour faire les choses.
Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est quand tu as fait la publicité de La Très Grande Évasion, tu as donné 10 raisons pour aller voir le film. Et il y en avait une 11e. Elle est fameuse. C'est de dire que Libé n'avait pas aimé le film.
Alors tu me rappelles quelque chose, je sais pas, j'avais plus souvenir.
Ah si. Et beaucoup ont annulé leur abonnement à Libé justement à cause de ça.
Je sais, je suis pas sûr que
de ton entourage.
Ça soit vraiment motif à résilier un abonnement, mais oui, d'une manière générale, c'est vrai que je le vis comme une forme de snobisme de la part des critiques de cinéma quand ils sont amenés à chroniquer, à rendre compte de films documentaires qui, dont la vocation n'est pas de révolutionner l'histoire du film documentaire, mais simplement de faire de la pédagogie autour de sujets qui soient politiques, économiques, économico-politiques, etc., qui n'est pas réellement leur domaine et effectivement qui n'est pas le lieu d'une innovation documentaire particulière. Il s'agit juste d'essayer de trouver des formes qui soient justes par rapport au sujet qu'on s'est donné. Et les outils qu'on peut mettre en œuvre pour le transmettre le mieux possible. Voilà, ça n'intéresse pas beaucoup ces journalistes cinéma-là, et bon, je peux le comprendre par ailleurs, voilà. Bon, donc, mais souvent, c'est un peu frustrant de les voir passer à côté quand même de l'essentiel du projet, du fait d'être restés comme ça dans leur cadre d'analyse strict, habituel, etc. Donc... voilà, mais c'est pas plus que ça. Ça, bon, je pense que aujourd'hui, de toute manière, j'ai pas le sentiment que les critiques cinéma de Libération soient très prescriptives. Enfin, amènent beaucoup les gens à aller voir un film ou à ne pas aller le voir. Donc voilà, c'est pas si grave. Puis rien n'est grave, quoi.
D'accord. Alors, on va venir à une relation, pas n'importe laquelle, Edouard Plenel. De Mediapart. Il avait fait une critique très élogieuse de la nouvelle de la Très Grande Évasion, et je suppose que c'est à cause de la Très Grande Évasion qu'il a eu l'idée de te confier Personne n'y comprend rien, ou bien...
Alors, c'est pas directement avec lui que j'ai eu affaire pour Personne n'y comprend rien, donc qui est effectivement un film coproduit par Mediapart, qui s'est fait à l'initiative de la rédaction de Mediapart, enfin d'un certain nombre de journalistes de la rédaction de Mediapart. Il se trouve que au moment de la sortie de la Très Grande Évasion, donc je rappelle que c'est un film sur l'évasion fiscale en France et dans le monde, j'avais fait quelques débats après séance avec Fabrice Arfi, qui est concerné par la question, puisqu'il a enquêté sur un certain nombre de ces mécanismes et de ces acteurs, et notamment des réseaux financiers bancaires, et de leur responsabilité dans ces phénomènes.
Et on le voit dans le film, d'ailleurs.
Donc voilà, il avait beaucoup aimé le film, on s'était un peu parlé à cette occasion-là, et je crois qu'il, voilà, il aimait bien mon travail. Il est l'un des deux journalistes qui ont mené au long cours cette enquête sur ce qu'on a appelé l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, donc l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et effectivement, en parallèle, moi, j'avais rencontré Louis Plenel, mais sur un autre projet, qui est encore un projet en cours, celui d'une série documentaire qui s'appelle « Le siècle de Costa-Gavras » et dont je suis actuellement en train de réaliser quelques épisodes. Une série documentaire en 10 épisodes qui reprend la filmographie de Costa-Gavras et interroge, on va dire, l'histoire contemporaine à travers les films de Costa-Gavras. Donc, cette série, elle est co-écrite avec Edoui, donc on l'a écrit tous les deux. J'en réalise quelques épisodes, pas tous, et lui est l'auteur du commentaire de chacun des épisodes. Voilà, donc avec Edoui, on s'est plutôt connus sur cette version-là. Voilà, et évidemment, bon ben voilà, ça a facilité tout à fait la rencontre ensuite avec Fabrice Arfi et puis avec Karl Lasker et Michael Eichelenberg, qui sont les trois co-auteurs
du
scénario. Voilà.
Alors, on va faire une pause et on va revenir sur la genèse et la fabrication de Personne n'y comprend rien. Rien. Donc, j'étais à l'avant-première le 7 janvier au Méliès à Montreuil et j'étais juste derrière monsieur Constant Gavras et son épouse et j'ai profité de la pause pour le remercier parce que quand j'ai été jeune, j'avais vu Z qui m'a éclairée sans savoir que au mois de février, une projection de ce film allait déclencher les foudres d'antifascistes contre des jeunes en plein cœur de Paris. Et le groupe Louise Michel, nous avons décidé de diffuser Z à Publico et il y avait une vingtaine de personnes, des jeunes notamment, qui ont regardé, si j'ose dire, religieusement ce film et écouté encore plus religieusement le débat qui a suivi sur ce film culte. Donc, Costa Gavras a été acclamé par le Méliès, par le public du Méliès, mais surtout, c'est toi qui a été acclamé pour le film. Donc, tu nous as expliqué que c'est plutôt Karl Laske, il me semble, qui a expliqué que le titre, Personne n'y comprend rien, c'est toi qui l'avais choisi. Pourquoi ? Comment c'est arrivé ?
Alors, c'est... Oui, voilà, il faut. Moi, un titre, c'est très important au cinéma, évidemment. C'est sur une affiche, ça dit quelque chose déjà, etc. Donc on fait très attention et ça peut donner lieu à des débats intenses avec tous les partenaires du film, la production, le distributeur, etc. etc. Et on peut, au cours du travail, changer de titre. Donc voilà, jusqu'au dernier moment, on va dire, le titre d'un film peut changer. Et d'ailleurs, souvent dans les contrats, on met titre provisoire pour être sûr de se donner la possibilité de continuer à réfléchir éventuellement à transformer le titre au cours des mois. Là, dans le fond, effectivement, moi, ça vient. Le titre, en réalité, vient d'une déclaration du principal intéressé, Nicolas Sarkozy lui-même, qui, dans une interview donnée au Figaro Magazine en août 2023, répondait aux journalistes qui l'interrogeaient sur ce qu'on appelle l'affaire libyenne, disait la chose suivante: les Français seraient bien en peine de savoir ce qu'on me reproche, personne n'y comprend rien. de résumer ce qu'on me reproche, parce que personne n'y comprend rien. Donc voilà, en tombant sur cette citation, je me suis dit, ben voilà, c'est à la fois...
un défi.
Évidemment, un défi, c'est à la fois, effectivement... en disant cela, je crois que Nicolas Sarkozy dit quelque chose, effectivement, de cette affaire, que... En réalité, effectivement, elle est très difficile à comprendre. Elle est difficile à comprendre parce que, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on n'a pas beaucoup cherché à l'expliquer. Je parle dans les médias dominants. Mm-hmm. Elle est difficile à comprendre parce que malgré les 160 articles publiés sur le site de Mediapart depuis les premiers, c'est-à-dire depuis 2011, eh ben c'est une affaire assez labyrinthique, il faut le dire, avec beaucoup de développements qui ont été révélés, on va dire, dans le désordre, d'une certaine manière. Et donc, c'est difficile d'avoir une synthèse de tout ça. Et donc le titre me paraissait relativement bien correspondre à la fois donc au projet du film et à cette quand même volonté de dissimulation enfin des tenants et des aboutissants de toute cette affaire dans les médias dominants. Donc voilà, c'est ce titre, je l'ai proposé, il a plu je crois immédiatement à tout le monde et donc on l'a conservé jusqu'au bout.
Oui, d'ailleurs les journalistes qui ont fait d'excellentes critiques sur le film, je pense au Nouvel Obs, qui titrait « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'humanité, quand Yannick Argoat dissipe l'écran de fumée entretenu par Sarkozy ». C'est ça, en fait. Ton film révèle un acteur d'exception, Nicolas Sarkozy. Quand on voit ton film, on se rend compte que l'affaire Sarkozy-Kadhafi, la dissimulation tient à un acteur de haut vol, c'est lui.
Oui, évidemment, étant donné qu'il est le principal, on va dire, responsable, en tout cas bénéficiaire de ce qu'aurait été ce pacte de corruption présumé, enfin, qui a fait l'objet de 3 mois et demi de débats au tribunal judiciaire de Paris depuis...
La 36e chambre correctionnelle.
Voilà, depuis janvier, le mois de janvier 2025.
Le 8 janvier.
Évidemment, il est le principal accusé, le principal bénéficiaire, et effectivement, celui qui a été le plus souvent sollicité par les médias pour raconter de manière très systématique au cours des années que cette affaire n'existait pas, que il n'y a rien à chercher, rien à comprendre, et que tout ça est une construction à la fois médiatique, puisque et quand il dit médiatique, il parle essentiellement de Mediapart, qui a été essentiellement le média qui a enquêté sur cette affaire. Pas le seul exclusivement au cours des années, mais quand même très largement le journal qui a le plus travaillé sur cette question-là. Et évidemment, il parle aussi d'une construction judiciaire, puisque à partir des premières investigations en 2013 de la justice au cours de cette affaire, il n'a eu de cesse de répéter que les dossiers étaient vides et que tout ça était un fantasme de magistrat. Voilà. Et ça a été sa position... on peut dire jusqu'aux dernières secondes du procès qui s'est terminé le 7 avril.
Oui. Et d'ailleurs, sur Mediapart, étaient chroniquées régulièrement les séances du procès. Il y a des podcasts de résumés. Et tout ça accompagne la sortie du DVD et de la VOD. Alors, Le Temps, le journal suisse, a dit ceci. Si les hommes du président avait été un documentaire, le résultat aurait sans doute ressemblé à Personne n'y comprend rien, film qui innove, captive, effare et clarifie. Le film honore autant le 7e art que le journalisme dont il est issu. Et c'est tout à fait mon avis.
Ben, c'est une bonne critique, ça.
Ah, c'est une excellente critique.
On va pas dire le contraire. La référence aux hommes de président, oui, elle est relativement évidente parce qu'on a affaire à une énorme affaire, effectivement, de corruption politique. Alors, évidemment, le contexte est très différent, c'est pas du tout les mêmes faits qui sont révélés, mais au cœur de ça, on a une corruption politique et une rédaction et deux journalistes, effectivement, qui vont mener ce travail avec beaucoup de rigueur et de courage, on peut le dire, et d'acharnement, soutenu aussi par derrière, par toute une rédaction qui les accompagne. Hein.
On ne peut pas dire qu'ils ont été soutenus par leurs confrères, parce qu'ils ont plutôt... Ils ont plutôt dézingué au passage.
Alors, je dis bien par une rédaction, c'est-à-dire par leurs confrères à l'intérieur du journal.
De Mediapart.
Mais effectivement, ce soutien, il n'a pas été l'objet de beaucoup d'autres médias français, notamment radio, télévision, presse écrite, etc.
Qui avaient tendance à donner le micro plutôt à Sarkozy qu'autre chose.
Voilà, qui au cours des années ont plutôt relayé la thèse du principal aujourd'hui mise en cause. Que les révélations, ou rendre compte des révélations du journal Mediapart, voilà, au cours des ans. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a souhaité faire ce film, hein. C'était pour un peu rééquilibrer aussi la balance par rapport à ça, et se saisir de ce moment du procès pour essayer de dire une chose très simple, le dossier n'est pas vide, comme l'affirme Nicolas Sarkozy depuis toutes ces années, mais comme l'affirme aussi un certain nombre de journalistes. J'en veux pour preuve, par exemple, Christophe Barbier, au matin de l'ouverture du procès, qui, sur une radio, disait encore « Le dossier est vide, ce procès est un procès politique ».
Alors, Christophe Barbier, j'ai une image culte que je garde sur mon ordinateur. C'est quand Jean-Pierre Delevoye était poursuivi, était mis sur la place publique pour tous ces conflits d'intérêts, il disait « Il ne démissionnera pas, il ne démissionnera pas. » À 7h le matin, à 11h, Delevoye a démissionné. Mmh. Donc, Christophe Barbier, pardon.
En tout cas, il fait partie, effectivement, c'est des éditorialistes multicartes, hein, qu'on peut qualifier de multicartes, parce qu'on les entend un peu partout, ils sont à la fois à la télévision, ils signent des éditos dans la presse écrite, on les entend dans les matinales radiophoniques, etc. Ils sont partout, et depuis de nombreuses années. Et effectivement, ils sont là pour accompagner les gens au pouvoir, les intérêts et les décisions des propriétaires des médias qui les emploient. Et ils font ça très très bien.
Ça, c'est un mérite. C'est le seul mérite qu'on leur accorde. Je suis méchante ce matin, c'est dingue. Bon, passons. Alors, personne n'y comprend rien. La bande-annonce, il y a une voix, et pas n'importe laquelle, qui commente cette bande-annonce. Tu peux en parler de cette comédienne d'exception ?
Alors oui, alors il y a une voix off, comme souvent dans ces films documentaires, qui accompagne par moments effectivement le récit, qui synthétise, résume, lance un certain nombre donne des informations, et l'homme lance un certain nombre de séquences, etc. Et c'est Florence Loirecaille qui a accepté effectivement d'être la voix du film de manière très très sympathique et sans discussion. Voilà, on lui a proposé pour ses qualités de comédienne, pour le timbre particulier de sa voix, que moi j'aime beaucoup. Et c'était un grand plaisir de l'avoir accepté tout de suite, de faire de travailler avec nous sur ce film. Et moi j'en suis ravi. Et effectivement, je crois que on n'a que des compléments sur la façon dont elle a dit ce texte pour ce film.
Alors, on va rentrer dans la fabrication du film, si tu veux bien, Yannick. Plusieurs interlocuteurs viennent devant caméra. Comment vous les avez choisis? Et est-ce qu'on peut dire leur nom pour donner envie aux éditeurs de se rapprocher de la VOD?
Déjà, il y a deux témoins principaux qui sont Fabrice Arfi et Karl Lasky, qui sont les deux journalistes qui ont, depuis 2011, enquêté sur l'affaire. Hein, et donc, qui ont fait
ce travail
d'enquête, rigoureux, acharné, on va dire, au cours des années. Donc, c'est le principe du film, celui que j'ai... immédiatement décidé, c'est que le film n'allait pas raconter l'affaire, il allait raconter l'enquête. voilà. L'affaire.
Et ça, c'est puissant.
Voilà. Donc, avec la nécessité de faire des allers-retours dans l'histoire, puisqu'il y a des éléments de l'enquête qui n'arrivent pas dans la chronologie de l'affaire elle-même. Hein. Donc, il faut, de temps en temps, revenir en arrière, etc., etc. Et qu'on allait raconter cette histoire du point de vue, effectivement, des deux journalistes qui ont mené cette enquête. Et avec cette possibilité à la fois de raconter comment s'est déroulée leur découverte, hein, sur quel rythme et dans quelle chronologie, et en même temps raconter l'histoire de ce pacte de corruption. Donc ça, c'est le premier point, on va dire, principe narratif. Le deuxième, c'est une proposition que j'avais faite très très tôt à Fabrice, Karl et Michael, c'est de dire il ne faut pas simplement se limiter dans le film à raconter l'affaire, ce qu'on pourrait qualifier malgré tout d'un fait divers, un énorme fait divers, mais qui est quand même de l'ordre du fait divers, hein, une affaire de corruption. Il faut aussi essayer de réfléchir un peu sur le coût démocratique, on va dire, d'une affaire comme celle-là.
Et ça, c'est très important. Voilà. Le coût démocratique, ça nous a coûté très cher.
D'ouvrir un peu la réflexion autour de cette affaire pour essayer de comprendre les enjeux un peu démocratiques de cette affaire de corruption politique. D'où l'idée d'avoir de ce que j'appelle moi des grands témoins cours du film qui viennent à un moment donné un peu éclairer ces questions.
Et notamment
en parallèle du récit de l'enquête.
Et notamment, je pense au procureur Molins.
Donc voilà, il y a dans l'ordre Patrick Ahemzadeh, qui était un diplomate en poste en Libye pendant des années, arabophone, qui connaît extrêmement bien le régime libyen et qui va effectivement qui nous apporte un éclairage sur ce qu'a été ce régime et la manière dont notamment Muammar Kadhafi finançait un certain nombre de candidats à la présidentielle dans différents pays, etc., etc. Enfin, nous donner des clés sur cette corruption politique de la part du régime libyen. Il y a Daniel Klein, qui est l'une des victimes de l'attentat du D10 du TA, qui a été commandité par le régime libyen et organisé par Abdelhassé Roussi, qui est le numéro 2 du régime libyen de l'époque,
et beau-frère
de Kadhafi, et qui va être l'un des interlocuteurs de Claude Guéant, Hortefeux, etc., au cours de l'affaire. Il y a François Molins, qui va nous parler de la question de la justice et des attaques, notamment d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques quand ils sont mis en cause par les juges, les magistrats, et font l'objet de
l'instruction
de procès. Et ça continue, évidemment. Et il y a, à la fin du film, une ouverture sur la question des médias et du traitement médiatique de ces affaires, et notamment de l'affaire Sarkozy-Kadhafi.
Avec Julia Cagé.
Avec Julia Cagé, qui vient un peu nous donner un peu des clés.
Elle a eu un prix. Elle a eu un prix en tant qu'économiste, Julia Cagé. Un prix il n'y a pas longtemps.
Alors, elle est particulièrement intéressante à entendre sur ces questions-là, puisqu'elle est à la fois porteur d'une critique des médias assez forte, avec des propositions de transformation des médias français, mais aussi elle a toute une réflexion sur la question du financement de la démocratie, et notamment du financement électoral, etc., justement pour essayer d'avoir quelque chose de plus juste et qui porte moins les hommes et les femmes politiques à utiliser la corruption politique pour financer leurs élections.
Voilà. D'accord. Et donc tous ces témoins sont filmés dans le même décor, par toi. Et ils ont accepté, même quand j'ai vu Molins, je me suis dit, waouh, il a accepté de venir.
Oui, oui, bien sûr, ils ont accepté, évidemment, ils ne sont pas pris au piège, hein, on les prévient tout à fait à l'avance du sujet du film, et pour certains, voilà, moi je transmets en avance les questions, en tout cas les thèmes de leur intervention, sur lesquels je voudrais qu'ils puissent s'exprimer, ça ne veut pas dire que je leur dis, voilà, ça ou ça, mais voilà, les questions qui vont vous être posées, et ça leur donne l'occasion de les travailler, de s'y préparer un peu, et d'avoir ensuite, voilà, une parole la plus fluide possible, la plus argumentée. Alors l'ensemble des interventions, donc des personnes qui interviennent dans le film, sont filmées dans le même décor, effectivement. C'était un choix là aussi de mise en scène qui est dicté à la fois pour des raisons économiques, parce que il faut faire le film dans une certaine économie et avoir un seul décor, ça évite des déplacements, etc., de l'équipe. Donc ça, c'est un point de vue. Mais surtout, pour moi, j'avais conscience que l'histoire qu'on allait raconter s'était totalement déroulée au passé, qu'on allait raconter une histoire du passé. Et je voulais incarner une sorte de présent du récit du film. Et pour moi, le présent du récit du film se manifestait dans le fait d'avoir un lieu unique, puisque dans le documentaire, l'espace, c'est le temps. Donc si j'ai un espace unique, j'ai la possibilité de créer un moment, on va dire, de l'énonciation du film, et donc un présent du récit du film. Pour moi, c'était important dans le rapport que le spectateur, enfin les gens qui allaient voir le film, auraient avec cette histoire. Le fait qu'on leur raconte d'un point de vue, d'un moment unique. Voilà. Où tous les gens qui interviennent sont...
rassemblés ?
Oui, je raconte l'histoire depuis ce moment-là unique, voilà, et qui se matérialise avec le fait qu'on n'est pas une fois là, une fois ailleurs, etc., qu'on ne change pas de lieu en fonction des personnes qui sont interrogées, mais que tout se passe dans le même moment, d'où l'idée aussi d'inscrire un certain nombre des archives qui vont être montrées dans le film, parce qu'il y a beaucoup d'archives. Hein. On raconte cette histoire et on l'illustre de plein de manières différentes. Où une partie de ces archives sont, elles aussi, projetées dans ce lieu. Donc procèdent de ce lieu et du moment de cette énonciation.
Ouais. Alors, tu es passé à TV5 et cet extrait a tourné en boucle sur les médias africains parce que l'affaire Sarkozy-Kadhafi a des conséquences encore aujourd'hui au Sahel. Et c'est dommage que les cinémas africains n'aient pas eu accès à ce film, parce que ça aurait montré quelque chose. Il n'est pas que franco-français, et ils le disent bien dans l'article du Temps suisse, quand il suggère à ses lecteurs d'aller le voir, parce qu'il a été projeté en Suisse, à Genève. C'est une histoire mondiale. Cette affaire a des impacts mondiaux.
Oui, tout à fait, évidemment. Effectivement, ça concerne un président, une élection, et on va dire un clan politique français, francophone, et franco-français, je veux dire plus exactement. Mais évidemment, ça concerne aussi un pays, la Libye, ses dirigeants de l'époque. Lié à ce pays et à ces acteurs-là, Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi, il y a aussi un conflit en 2011, une guerre...
qui dure toujours.
Qui a eu des conséquences extrêmement importantes pour le pays, pour les Libyens et pour toute la sous-région, évidemment, qui s'en est trouvé déstabilisé, un pays qui est encore aujourd'hui complètement fracturé... qui a énormément souffert de cette guerre, qui est un pays sans aujourd'hui, on va dire, État central, qui est ouvert à toutes les ingérences étrangères, etc., et livré à des groupes armés plus ou moins importants et qui contrôlent des territoires plus ou moins importants dans le pays. Enfin voilà, donc... De ce point de vue-là, oui, il y a un enjeu qui dépasse très largement les frontières de l'Hexagone et qui intéresse, comme tu le dis, l'Afrique, parce que, oui, on sait que toute la sous-région a été déstabilisée par ce qui s'est passé en Libye en 2011 et ensuite, au cours des 10 ans qui ont suivi, par le fait que une partie de l'arsenal libyens, de l'armée libyenne, s'est diffusée dans le Sahel et a armé des groupes armés, notamment djihadistes, etc. Donc voilà, c'est ça, ça, de ce point de vue-là, ça, ça, ça intéresse effectivement les pays africains qui n'ont effectivement pas eu l'occasion de voir le film en salle,
mais qui auront l'occasion de le voir
avec la VOD, tout à fait, s'ils sont intéressés par le film.
Ouais. Oui, d'ailleurs, je compte envoyer la copie de l'émission en Afrique pour dire que la VOD est disponible et qu'ils se la procurent parce que ça intéresse. C'est l'histoire, c'est de l'histoire mondiale. Film.
C'était le sens un peu de cet entretien à TV5. Effectivement, j'étais un peu surpris qu'il me... C'était le journal Afrique de TF1. Et effectivement, la journaliste m'a dit ce que tu me dis là. C'est-à-dire que les pays africains sont vraiment intéressés par cette affaire et intéressés à essayer de comprendre les tenants et les aboutissements de cette affaire de corruption politique.
Résultat, le 25 septembre pour Nicolas Sarkozy ?
Le résultat du procès, effectivement, oui. Donc il est en délibéré, jusqu'au 25 des audiences, et effectivement, le verdict sera rendu le 25 septembre. On peut rappeler que le parquet national financier a fait des réquisitions assez dures. Hein. Mmh. Ils ont réquis 7 ans de prison, notamment pour Nicolas Sarkozy. Donc, effectivement, c'est un procès en première instance. On sait d'ores et déjà qu'il y aura un appel, etc. Et un pourvoi en cassation. Parce que l'intérêt des mises en cause, c'est de faire durer le plus longtemps possible, effectivement.
Tout à fait.
Cette instruction judiciaire et ces procès. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un réquisitoire très très dur, en tout cas pour les prévenus, et qui est très attendu, effectivement. On attend beaucoup.
En tout cas, je peux te dire une chose, Yannick, c'est que une des spectatrices du Méliès a même dit à Fabrice Arfi, quand j'ai acheté votre livre avec les compliments du guide, j'ai rien compris. Mais avec ce film, j'ai tout compris. Donc, ça avait un peu vexé Fabrice Arfi, ce que je comprends. Il s'était donné beaucoup de mal pour écrire le livre.
C'est un livre qu'ils ont écrit à deux avec Karl. Il faut jamais oublier Karl, qui est co-auteur du livre et de l'enquête. Mais effectivement, ce n'est pas la même chose que de consacrer 1h30 ou 1h40 à un film qui fait une synthèse que de la lecture d'un livre de 400 pages qui explore toutes les pistes les unes après les autres, etc., qui est très riche de nombreux documents, de nombreuses notes, etc. Voilà, c'est plus difficile.
En tout cas, avec ton film, on ne peut pas dire, nous les contribuables, parce que les campagnes présidentielles sont financées avec nos fonds, on ne peut pas dire qu'on n'y comprend rien. On a tout compris. Et ça... pour ça, Yannick, on te remercie infiniment.
Alors, il faut me remercier, mais il faut évidemment remercier les journalistes de Mediapart qui sont à l'origine de l'enquête. Et je pense que, c'est le film n'existe que parce que leur enquête, elle existe. Et puis, il faut quand même remercier les gens qui ont... contribuer au financement de ce film, parce qu'il ne faut pas oublier de rappeler, et c'est une chose très importante.
Ça a été un crowdfunding incroyable, voilà. En très peu de temps. D'ailleurs, je me suis dit, il y a tant de gens qui détestent Sarkozy pour donner de l'argent pour un film.
Je ne sais pas s'ils le détestent tous, non, mais il faut rappeler que pour 90%, ce film, il est financé grâce à un financement participatif.
Voilà.
10 178 personnes, très précisément, donnaient de l'argent pour que ce film existe. Pour 10%, on a ce qu'on appelle une avance distributeur, c'est-à-dire le distributeur du film en salle donne en avance une petite somme qu'il se remboursera sur les recettes. Mais donc, pour la quasi-totalité du budget, encore une fois, 90%, c'est exclusivement un financement participatif. Il n'y a pas de subvention publique, il n'y a pas d'aide sélective du CNC dans le budget du film. On a fait ce film parce qu'il y avait des citoyennes et des citoyens qui voulaient que ce film existe, tout simplement. Et on l'a fait grâce à elle, on l'a fait pour elle, d'une certaine manière, on l'a fait avec elle, parce que portée par cette énergie considérable de savoir que autant de personnes, et comme tu le disais, si rapidement, ont décidé de collaborer à son financement.
Alors, j'ai une annonce à vous faire. L'animateur et notre ami Enrique, l'animateur de l'émission Radio X, est décédé vendredi dernier. Ça va faire une semaine. Donc, en hommage à Enrique que nous adorions, surtout nous au groupe Louis Michel, nous l'avions fait membre d'honneur de notre groupe, parce qu'il nous avait rendu énormément de services. Et il nous avait annoncé son cancer tout en animant une émission que je faisais avec Laurent Mauduit de Mediapart, sur son livre « Vous ne me trouverez pas chez Amazon ». Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de générique habituel, mais que ce serait une musique de Kraftwerk. Allez hop, je l'ai bien dit. qu'il aimait, et qui était notre première conversation, notre premier contact avec lui, parce qu'il était fan de Kraftwerk. Et nous avons même diffusé, à ta demande, Yannick, Radioactivity de Kraftwerk, comme intermède musical. Donc, Henrik reste dans nos cœurs à tout jamais, nous n'oublierons pas, et il est juste, il s'est juste absenté, il n'est pas parti. C'est notre définition devant la mort. En attendant, si vous avez des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez tant qu'ils sont présents. Ce n'est pas quand ils sont morts qu'il faut manifester l'amour aux autres. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup.
Merci Marima.
Radio Libertaire, 89.4 FM, 17h28, Papa Laurent, Léo 38, un petit big up à Henrik. À l'arrache dedans, salut à toi. 01 43 71 89 40, ça c'est le numéro de téléphone. Radio Libertaire, 89.4 FM et sur le web. Yo.
The number you have reached has been disconnected.